100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, Accent d'Europe toujours confiné et réalisé à distance, chacun chez soi en somme, mais pas chacun pour soi. Cet appel lancé par le Secours catholique en France, c'est aussi l'une des belles surprises de ce confinement en Europe. À situation exceptionnelle, une solidarité inédite est apparue. Dans toutes les associations, les propositions d'aide se multiplient, notamment chez les jeunes. En France, en un mois, le Secours populaire a vu une hausse de 10% de ses bénévoles. En Espagne aussi, deuxième pays le plus durement touché par le Covid-19 en Europe, la solidarité s'est rapidement organisée. Chaque vie compte, c'est le slogan de l'ONG catalane Open Arms. L'organisation est connue pour sauver la vie de migrants au large de la Méditerranée depuis 2015, mais depuis le début de l'épidémie, c'est sur la terre ferme et auprès des personnes âgées que l'ONG intervient pour tenter de ralentir le drame en cours dans les maisons de retraite. Élise Gazangel.
Entre deux zodiacs, dans leur hangar en banlieue de Barcelone, les volontaires de l'ONG Open Arms se préparent pour une mission de sauvetage sur la terre ferme. Face à l'urgence sanitaire que vit l'Espagne, l'ONG qui sauve des migrants en mer depuis 2015 a cette fois proposé son aide aux administrations de sa région. Très vite, ils ont été appelés dans les maisons de retraite débordées par la crise. Gerard Canals, coordinateur des missions de l'ONG.
La mairie de Barcelone nous a proposé de les aider à transférer des personnes âgées qui avaient été diagnostiquées positives vers d'autres centres pour isoler les personnes non malades et ainsi éviter les contagions. Et enfin, le gouvernement catalan nous a demandé de réaliser des tests massifs sur tous les résidents des maisons de retraite catalanes.
Au total, 80 bénévoles de l'ONG se répartissent ces missions inhabituelles. Marsabé est membre de l'association depuis sa création et elle participe à ces nouvelles actions depuis le début de la pandémie. Pour elle, c'était une évidence.
Bien sûr, nous avons changé de secteur et de moyens, mais on continue à faire la même chose, protéger la vie des plus vulnérables. Alors oui, on a dû apprendre à le faire sur la terre ferme, mais aujourd'hui, les plus vulnérables sur la terre ferme, ce sont les personnes âgées. Et pour moi, c'était choquant de voir qu'on abandonnait complètement cette population.
Formés par des scientifiques et des médecins, les membres de l'ONG troquent leurs gilets de sauvetage contre des blouses de protection et se rendent chaque jour dans ces centres durement touchés par le virus.
La réaction des anciens en nous voyant, c'est la surprise. Ils nous disent qu'on ressemble à des astronautes parce qu'on est très protégés. Et certains s'en amusent alors que d'autres ont un peu peur. Mais quand ils comprennent ce qu'on vient faire, en général, ils nous remercient. Le personnel qui travaille là-bas est désemparé, dépassé par la situation.
Pour la trentenaire, l'heure est à l'urgence sanitaire. Mais il faudra ensuite comprendre ce qui n'a pas fonctionné.
Là, on essaie surtout d'apporter notre grain de sable pour freiner la pandémie et freiner les contagions. Quand tout sera terminé, je pense qu'il faudra évaluer la situation et on exigera des responsables. Même si pour l'instant, il faut tous se serrer les coudes.
Selon les chiffres donnés par la région, près de 30% des personnes tuées par le Covid-19 étaient en maison de retraite. Cinta Pasquale est la présidente d'ACRA, la principale association regroupant ce type de centre. Pour elle, le manque de protection et de tests explique en partie ce drame.
C'est Open Arms qui réalise les tests de dépistage. Et nous attendions avec impatience que ces tests arrivent enfin dans nos résidences pour changer la donne. C'est une aide pour laquelle nous sommes 100% reconnaissants. En temps normal, nous n'en aurions pas besoin, mais en ces temps exceptionnels, évidemment que si.
La semaine dernière, le parquet espagnol a ouvert 86 enquêtes dans des résidences dans tout le pays pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. En attendant, l'ONG Open Arms promet d'aider dans la région aussi longtemps que nécessaire et assure qu'elle reprendra le large au plus vite, dès que leur bateau sera réparé, pour continuer de sauver des vies en mer.
Confinement, distanciation sociale, télétravail, cette pandémie nous pousse aussi à repenser nos liens en société. comment aider quand on n'a plus le droit de se rencontrer? Comment rompre l'isolement? En France, de nombreuses plateformes d'écoute ont vu le jour, avec des psychologues ou quelquefois de simples bénévoles prêts à tendre l'oreille aux angoisses des confinés. SOS Amitié, c'est l'une d'entre elles. Ses appels ont bondi de 10%, Lise Verbeck.
SOS Amitié, bonjour.
Depuis le début du confinement, l'association qui existe depuis 60 ans n'a jamais semblé aussi nécessaire. De jour comme de nuit, toute la semaine et les week-ends, les bénévoles des 44 antennes locales de France prêtent une oreille attentive aux angoisses des appelants.
Oui, je vous écoute.
François est l'un des bénévoles de SOS Amitié. Il a installé la ligne chez lui pour pouvoir continuer à écouter pendant cette période particulière. Depuis mars, SOS Amitié reçoit 7000 appels par jour dans toute la France, soit 2000 de plus qu'avant les mesures de confinement.
Actuellement, il y a beaucoup de solitude. Les personnes qui auparavant étaient seules, avant la crise, le sont encore plus. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent seules, mais avant la crise, qui travaillaient, qui allaient au travail. Donc, il y avait quand même un lien social. Aujourd'hui, elles n'ont plus ce lien social. Leur mal-être est exacerbé par ce confinement.
Certaines personnes peuvent appeler SOS Amitié plusieurs fois par jour, juste pour parler à quelqu'un, quelques minutes. Pour les personnes angoissées par la situation, il existe aussi des plateformes téléphoniques qui se sont mises en place un peu partout en France. C'est le cas dans la ville de Rennes. Au bout du fil, un professionnel de la santé mentale répond. Gérard Hugeron, psychothérapeute spécialisé dans le traitement du traumatisme, y assure des permanences bénévolement.
J'ai à l'esprit un papa qui appelle pour sa jeune fille de 14 ans, parce que depuis le confinement, elle a des troubles du sommeil. Donc le papa décrit une jeune fille qui d'ordinaire est enjouée, plutôt sportive, etc. Et ce qui ressort comme caractéristique très vite, c'est que c'est une jeune fille qui recherche l'excellence, qui est première de classe. Assez vite, on comprend qu'on a affaire à un profil quand même plutôt anxieux.
Le confinement exacerbe la nature de chacun, et notamment ceux qui ont déjà un fond anxieux. Dans ce cas de figure, le psychologue a conseillé au papa de faire de la méditation ou de la sophrologie à sa fille.
Je vous invite à vous installer confortablement.
Il existe d'ailleurs depuis le début du confinement beaucoup de professionnels qui mettent en ligne des séances gratuites de sophrologie pour apprendre à se détendre.
Je vous invite à fermer les yeux, à juste vous connecter à l'instant présent.
Car selon Gérard Hugeron, le confinement est une situation que l'on ne maîtrise pas et c'est cela qui peut accentuer le stress.
C'est un petit peu la même chose qu'on va rencontrer chez certains phobiques de l'avion par exemple, où il n'y a pas de raison a priori que les personnes aient besoin de descendre en plein vol d'un avion, mais... c'est l'idée même que si j'en avais envie, c'est pas possible, quoi. Le fait de ne pas avoir le contrôle, et on se rend compte d'ailleurs, c'est la conversation que j'avais avec un monsieur lors d'une écoute, puisque la date a priori de sortie de confinement venait d'être connue. Eh ben, l'idée de pouvoir sortir, en tout cas que c'était une possibilité datée du 11 mai, et ça le rassurait, quoi.
Si cette plateforme est destinée à toute la population, d'autres cellules ont été mises en place. Dans le Nord, le MEDEF, le syndicat patronal, a ainsi lancé une ligne d'écoute spéciale pour les entrepreneurs. Claire, psychologue du travail, y reçoit les appels. La plupart proviennent des chefs de petites entreprises.
On a quand même de nombreuses personnes qui sont seules et célibataires. Du coup, leur entreprise, c'est leur vie.
Alors au-delà des démarches administratives qu'ils doivent faire pendant cette crise, la psychologue les aide à mettre des mots sur ce qu'ils vivent.
Cette crise, en fait, elle impacte leurs rêves. Un entrepreneur, pour s'être lancé, c'est qu'ils croient en quelque chose. Ils sont autonomes, ils sont indépendants. Et là, tout s'écroule. Est-ce que je continue mes efforts? Est-ce que je continue à travailler entre 50 et 80 heures par semaine pour ça? Ou est-ce que j'arrête tout?
La psychologue suit gratuitement chaque semaine une dizaine de chefs d'entreprise avec des entretiens par téléphone ou par visioconférence.
Restez chez vous, voilà une consigne qui perd tout son sens quand on vit dans la rue. Dans toute l'Europe, les sans-abri se sont retrouvés privés du jour au lendemain de tout un réseau d'aide, des centres de jour ou des cuisines populaires fermées pour éviter tout regroupement. En Allemagne, des associations commencent à trouver des alternatives, comme ces grilles de jardins et de parcs, où les Berlinois suspendent désormais des dons de toutes sortes. C'est le reportage de Déborah Berlioz.
Près de la station Hermannstrasse, au sud de Berlin, plusieurs sacs plastiques sont accrochés à une grille. Dessus, des étiquettes indiquent leur contenu. De la nourriture, des articles d'hygiène, des vêtements. Déposés par des anonymes, ils sont destinés aux SDF du quartier. Cette grille de dons, ou Gabenzaun en allemand, est apparue en même temps que le coronavirus à Berlin. Mais l'idée n'est pas nouvelle. Une grille de dons a déjà été créée en 2017 à Hambourg par l'association Gabenzaun, dont Yana fait partie.
À l'époque, sont apparus à Hambourg des dispositifs anti-SDF. Des pics avaient été installés sur des murets afin d'empêcher les gens de s'asseoir ou de se reposer. Ces pics ont finalement été interdits et à la place, la ville a fait installer des grilles, toujours destinées à repousser les sans-abri. Les deux présidentes de notre association ont alors décidé de renverser l'idée même de ces grilles et d'en faire un outil pour rapprocher les gens plutôt que pour les séparer.
Et ces grilles ont de gros avantages, selon Yana.
On peut y accrocher quelque chose tout en restant anonyme. Et ceux qui viennent y chercher quelque chose peuvent également rester anonymes. Ils ne sont pas en position de mendiant à qui on fait l'aumône. Tout le système peut rester entièrement anonyme. Il n'y a pas de demande ou de remerciement. C'est une aide facile et sans condition.
Depuis l'apparition du coronavirus, l'idée des grilles de dons a essaimé dans tout le pays. Rien qu'à Berlin, on en compte une cinquantaine, toutes recensées sur une carte sur Internet. Cela n'étonne pas Yana. Selon elle, ces grilles sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais.
Beaucoup d'organisations d'aide ont disparu et les sans-abri ont perdu leurs ressources habituelles. Ils ne pouvaient plus ramasser les bouteilles pour récupérer la consigne. Les centres-villes sont vides et il n'y a plus personne pour leur donner un euro en passant.
À Berlin aussi, beaucoup d'offres d'entraide ont disparu. Il faut dire que les bénévoles sont souvent des personnes âgées qui ne peuvent risquer leur santé en ce moment. Or, sans eux, les associations peuvent difficilement maintenir leur activité, sans parler des règles de distanciation qui doivent être respectées et du manque de tenue de protection. À la gare de Zoo, en plein centre-ville, la Stadtmission, une association protestante, a dû fermer son café. Avant la crise, 600 personnes y venaient chaque jour prendre un repas. Pour compenser, des sacs de nourriture sont distribués à la fenêtre. Une alternative qui ne résout pas tout, selon Barbara Breuer, la porte-parole de la Stadtmission.
Quand on reçoit un paquet par la fenêtre, on ne peut pas raconter sa vie ou bien parler de ses problèmes, car il y a encore 50 personnes qui attendent derrière et qui ont faim. Donc la crise du coronavirus rend le contact personnel avec les gens beaucoup plus difficile.
Des rendez-vous individuels avec des conseillers restent cependant possibles. Quant au bus du froid de l'association, son service a été prolongé. Normalement, il ne sillonne les rues qu'en hiver pour ramener les sans-abri dans les hébergements d'urgence.
Avec la crise du corona, les gens se promènent moins dans la rue et donc ils ne peuvent plus, comme avant, nous signaler s'ils voient une personne en difficulté qui aurait besoin de notre aide. Notre bus du froid va donc rouler jusqu'en juin. Il circule le soir et va là où les sans-abri dorment afin de leur apporter à manger. Il permet aussi aux gens de se laver les mains, de recevoir un pansement ou des soins médicaux.
Et si les seniors ne peuvent plus aider, nombreux sont les plus jeunes qui se sont manifestés auprès de l'association Stadtmission pour renforcer les rangs des bénévoles. Ils aident à préparer les sacs de nourriture, à trier les dons de vêtements ou encore à coudre des masques. Le coronavirus n'a donc pas eu raison de la solidarité.
Ils sont entre 4 000 et 5 000 en France et sans eux, les services de réanimation et d'urgence tourneraient au ralenti, voire pas du tout. Et pourtant, ces médecins en première ligne ces dernières semaines sont sous-payés car diplômés en dehors de l'Union européenne, des médecins précaires. Mais voilà, leurs collègues français qui se mobilisent depuis des années comptent bien profiter de cette crise du coronavirus pour qu'ils soient enfin et pleinement reconnus par l'État. Le reportage de Frédéric Lebel.
En pleine pandémie, les urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, dans le nord de Paris, ne chôment pas. Pour le chef de service Mathias Vargon, l'accueil et le soin des malades dépendent largement de ces médecins qu'on appelle les PADU, diplômés hors de l'Union européenne.
Mon service n'est constitué que de médecins qui viennent de l'étranger. Et si je les sépare entre ceux qui ont le droit d'exercer en France et ceux qui, pour l'instant, sont encore en stage, je n'aurais quasiment que la moitié du service. Donc non, je ne pourrais absolument pas fonctionner normalement. Et les médecins de l'hôpital seraient obligés de prendre des gardes aux urgences.
Ils viennent d'Algérie, du Maroc, du Liban ou de Syrie et sont en première ligne dans cette crise sanitaire. Et pour cause, ils travaillent souvent dans des services difficiles, aux urgences, en réanimation. Une main-d'œuvre bon marché aussi. Qu'ils soient en début de carrière ou bien médecins spécialistes en poste, leurs salaires sont deux fois moins importants que ceux de leurs collègues français. Autant dire, impossible à gérer pour le docteur Vargon.
J'ai un service à faire tourner et donc je veux des bons médecins. Et des bons médecins, ça se paye. Avant de passer l'épreuve de vérification des connaissances, vous êtes stagiaire associé, vous êtes très mal payé, 1 300 €. Et souvent, ils assument des fonctions qui ne sont pas celles d'un interne, mais celles d'un senior. Et puis, il y a les praticiens associés qui, eux, ont un statut de senior, mais ils sont payés beaucoup moins qu'ils ne le seraient si ils étaient inscrits au Conseil de l'Ordre ou si on les payait à la hauteur de ce qu'ils font, c'est-à-dire assurer les mêmes fonctions qu'un senior inscrit au Conseil de l'Ordre.
Soit 2 500 € contre plus de 5 500 € pour un diplômé français. Pourquoi ? Parce qu'avant d'obtenir le sésame, l'inscription à l'Ordre des médecins, le parcours est semé d'embûches. Concours ultra sélectif, stage à rallonge, audition devant des commissions. Le docteur Amine Benyamina, aujourd'hui chef de service de psychiatrie addictologie à l'hôpital Paul Brousse, connaît bien. Ce franco-algérien est passé par là il y a 25 ans.
Un parcours du combattant parce que lorsque vous arrivez d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, votre diplôme ne vaut rien. Donc il faut tout repasser, il faut passer un examen en concours. Une fois que vous avez passé l'examen en concours, vous êtes médecin stagiaire pendant 3 ans dans un service, faut-il encore en trouver. Et une fois que vous avez passé cette période, vous devez repasser devant une commission. Et une fois passé, vous devez, si vous souhaitez évidemment travailler à l'hôpital, passer le concours de praticien hospitalier. Donc il y a quelque part une espèce de prolétariat hospitalier qui fait travailler les gens dans des statuts précaires.
Car c'est aussi sans compter tous ceux que le système a laissés au bord de la route après avoir échoué à un concours ultra sélectif qui n'offre parfois que 2 postes par spécialité au niveau national. Pour le docteur Benyamina, l'hypocrisie d'un hôpital qui a trop intégré les codes de l'entreprise est évidente.
Une vision malthusienne et économiste et entrepreneuriale de l'hôpital qui fait que l'hypothèse que moins de médecins égale moins de dépenses pour l'hôpital. Et donc, on est dans un système qui est assez hypocrite dans lequel ils sont présents, mais ils sont finalement invisibles, mais leur absence se fera sentir très, très vite. Alors, c'est là où le bas blesse. C'est qu'on a beau dire, bon, ce sont des médecins de diplôme étranger, on ne peut pas les intégrer parce que le système va imploser. Non, c'est faux. Si le système devait imploser, ils ne seraient pas là. En revanche, on les maintient dans des statuts précaires avec des salaires absolument humiliants. Et ils n'ont d'autre possibilité de pouvoir exister qu'en ayant recours à la permanence des soins et aux gardes.
C'est dans ce contexte qu'avec une douzaine de médecins reconnus ou d'anciens ministres, il a lancé une pétition demandant au Premier ministre l'intégration de ces PADHU. La nouvelle loi santé de juillet dernier a prévu plus de places disponibles au concours et un examen sur dossier pour des milliers de praticiens reconnus qui ont échoué souvent brillamment aux examens. Mais les décrets d'application se font attendre. Seule avancée, une note du ministère de la Santé autorisant les hôpitaux à employer les médecins étrangers comme aides-soignants ou à l'accueil pendant la pandémie. Une gifle pour le docteur Slim Bramley, qui à la tête de l'intersyndicale des praticiens hospitaliers, négocie depuis des années pour les PADHU.
C'est quand même humiliant de proposer à un médecin qui a fait Bac plus 13 d'occuper un poste d'aide-soignant. J'adore les aides-soignants, les aides-soignantes. La base de notre activité au niveau des hôpitaux, parce que sans eux, on ne pourra rien faire. Mais proposer, je ne sais pas moi, à un chercheur en nucléaire, lui proposer de vendre des cacahuètes, ce n'est pas possible. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas accepter.
À l'heure des comptes et de la reconnaissance, les médecins étrangers espèrent bien ne pas être les grands oubliés de cette pandémie.
Accent d'Europe était réalisé à distance par Françoise Grelot. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission spéciale Covid sur le déconfinement cette fois. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi en podcast sur RFI.fr. Portez-vous bien, à bientôt.